Bonjour à toutes et à tous. Le Monde aujourd'hui, VO Afrique, édition du mardi 25 février 2025. En direct de Washington, Rosine Monezero. Pour commencer, les titres. Au Soudan, le secrétaire général de l'ONU a exprimé lundi sa préoccupation après la signature d'une charte fondatrice par les paramilitaires soudanais et leurs alliés en vue d'établir un gouvernement parallèle. En Côte d'Ivoire, l'avocat de Tidjane Thiam, chef du parti, du principal parti d'opposition, dénonce des mensonges et des manœuvres au sujet de la nationalité de son client. Le président américain Donald Trump a reçu son homologue français Emmanuel Macron à la Maison-Blanche lundi. Les deux dirigeants promettent de collaborer sur la question ukrainienne. Et dans notre partie magazine, les travaux du Forum international du développement des infrastructures du Tchad, défis et perspectives ont pris fin ce week-end à N'Djamena.
Investir dans les infrastructures de transport et de connectivité fait du Tchad un passage incontournable pour relier l'Afrique de l'Est, du Nord et de l'Est. Désenclaver le Tchad, c'est désenclaver l'Afrique.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Soudan, le secrétaire général de l'ONU a exprimé lundi sa préoccupation après la signature d'une charte fondatrice par les paramilitaires soudanais et leurs alliés en vue d'établir un gouvernement parallèle. Antonio Guterres craint une escalade du conflit. Le point avec Jean-Roger Billon.
Antonio Guterres est profondément inquiet, a déclaré son porte-parole Stéphane Dujarric. Cette nouvelle escalade du conflit au Soudan renforce la fragmentation du pays et risque d'enraciner la crise encore plus, a-t-il ajouté. La charte a été signée par les FSR et leurs alliés lors d'une réunion à huis clos dans la nuit de samedi à dimanche à Nairobi, sur fond de tensions diplomatiques entre le gouvernement soudanais et le Kenya. Les signataires du document entendent créer un gouvernement de paix et d'unité dans les zones du Soudan contrôlées par les rebelles. Le conflit qui oppose les FSR à l'armée régulière soudanaise depuis près de 2 ans a fait des dizaines de milliers de morts, déplacé plus de 12 millions de personnes et engendré un désastre humanitaire. La guerre, initialement déclenchée par des désaccords sur l'intégration des FSR dans l'armée, a déchiré le pays, l'armée contrôlant l'est et le nord du Soudan et les FSR dominant la quasi-totalité de la région occidentale du Darfour et des pans du sud du pays.
La première ministre congolaise Judith Suminwa Tuluka a déclaré en marge du Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève que le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo a coûté la vie à plus de 7000 personnes, dont de nombreux civils, depuis janvier. Elle a rappelé devant le Conseil des droits de l'homme que la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC a atteint des niveaux alarmants. Elle a précisé à la tribune que plus de 2500 corps ont été enterrés sans être identifiés et que plus de 1500 corps sont dans des morgues. Par ailleurs, le président burundais Evariste Ndayishimiye a rencontré hier son homologue et allié congolais Félix Tshisekedi lors d'une visite éclair à Kinshasa sur l'avancée du M23 et ses alliés rwandais dans l'est de la RDC. Il s'agit de la première rencontre entre les deux chefs d'État depuis l'offensive du M23 fin janvier. Le M23 et ses alliés rwandais ont continué leur progression dans plusieurs directions et les combats se sont notamment rapprochés de la frontière burundaise. L'avocat de Tidjane Thiam, chef du principal parti d'opposition en Côte d'Ivoire et candidat déclaré à la présidentielle, dénonce des mensonges et des manœuvres au sujet de la nationalité de son client à 8 mois de l'élection. Alexandrine Rolognon.
Plus sa popularité s'accroît, plus les manœuvres, les mensonges et les menaces se multiplient, a affirmé Maître Mathias Chuchportige dans une déclaration transmise à l'AFP. La semaine dernière, 4 personnes se présentant comme des militants du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, avaient saisi la justice pour faire annuler l'élection de Thiam à la tête de cette formation en décembre 2023. Ils estimaient notamment que Thiam ne remplissait pas les conditions exigées par les statuts du parti, obligeant le président à être ivoirien. Ils ont finalement retiré leur action en justice dimanche. La question de la nationalité de Tidjane Thiam a surgi dans le débat public début février, lorsqu'il avait annoncé avoir fait une demande de renonciation à la nationalité française pour pour pouvoir être exclusivement ivoirien, condition obligatoire pour être candidat à la présidentielle.
Le principal parti d'opposition en Ouganda a indiqué lundi que les forces de sécurité avaient perquisitionné son siège à Kampala et volé des documents, ordinateurs et de l'argent liquide tout en installant des caméras et micro-espions. Le parti NUP, dirigé par l'ancien musicien Bob Wine, a été la cible fréquente des forces de sécurité ces dernières années. Cette opération de police en date de samedi intervient au moment où l'Ouganda se prépare pour une élection présidentielle en janvier 2026 avec le président Museveni de nouveau candidat.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Donald Trump a reçu son homologue français Emmanuel Macron à la Maison-Blanche lundi. Malgré leur désaccord, les deux dirigeants ont promis de collaborer sur la question ukrainienne. À l'occasion du troisième anniversaire de l'invasion russe, Trump a également indiqué qu'il attendait la visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky dans les prochains jours pour signer un accord donnant accès à Washington aux minéraux de Kiev. Le point avec Eric Manilakiza.
Donald Trump a affirmé que son administration entendait corriger les erreurs de la politique étrangère de son prédécesseur. Il a déclaré que sous sa présidence, une nouvelle voie serait tracée pour promouvoir la paix mondiale. Lors de la conférence de presse conjointe, il a précisé que l'objectif était de renforcer les relations transatlantiques, notamment en ce qui concernait l'Ukraine. Trump a notamment évoqué la possibilité pour des troupes européennes de se déployer en Ukraine.
Les troupes européennes peuvent aller en Ukraine en tant que force de maintien de la paix. Une fois l'accord conclu, elles pourraient s'assurer que tout est bien respecté. Je ne pense pas que ce serait un problème. Je pense que ce serait un très bon jour lorsque nous pourrions intervenir en tant que soldats de la paix, plutôt que de continuer à avoir des pertes humaines comme actuellement, où tout le monde se fait tuer.
Le chef de l'exécutif américain a assuré qu'il croyait fermement que son plan pourrait être mise en place et que Vladimir Poutine accepterait une telle initiative, affirmant avoir posé la question à Poutine lui-même.
Il acceptera. Je lui ai posé la question. Écoutez, si nous concluons cet accord, il ne cherche pas à prolonger la guerre. Cela ne le dérange pas. Mais je lui ai spécifiquement posé cette question. Il n'y voit aucun inconvénient.
De son côté, Emmanuel Macron a souligné que la paix en Ukraine ne pouvait se résumer à une simple capitulation.
Notre volonté, c'est que cette paix dure, parce que nous avons déjà eu un cessez-le-feu et une paix qui n'a pas été respectée. C'était les accords de Minsk, 1 puis 2. Et donc le corps de cette discussion, c'est de s'assurer d'abord qu'il y ait un cessez-le-feu, ensuite que les Ukrainiens soient impliqués. Et je pense que ce que vient de dire à l'instant le président Trump est très important, c'est-à-dire qu'il va rencontrer rapidement le président Zelensky pour signer cet accord sur les minerais critiques et les terres rares. Les Européens sont prêts à prendre leur charge sous des formes diverses, de soutien à l'armée ukrainienne, de présence y compris pour s'assurer que la paix soit durable. Et l'implication dans la durée des États-Unis d'Amérique à travers cet accord est une bonne chose.
3 ans jour pour jour après le début de la guerre en Ukraine, le président français a aussi affirmé vouloir un deal rapide tout en rejetant un accord qui soit fragile. Le premier ministre britannique Keir Starmer est attendu à la Maison-Blanche jeudi. Bien que des divergences demeurent sur certains aspects de la résolution du conflit ukrainien, le président russe Vladimir Poutine a séparément affirmé lundi que les Européens pouvaient participer au processus de règlement de ce conflit.
Un homme détenu en Caroline du Sud après avoir été reconnu coupable du meurtre des parents de son ex-petite amie a demandé d'être tué par un peloton d'exécution le mois prochain, ce qui serait la première exécution de ce type aux États-Unis depuis 2010. Jacques Aristide.
Brad Sigmund, 67 ans, doit être exécuté le 7 mars dans une prison de Columbia, la capitale de la Caroline du Sud, pour les meurtres de David et Gladys Lark en 2001, battus à mort avec une batte de baseball. Sigmund avait le choix entre l'injection létale, le peloton d'exécution ou la chaise électrique, après avoir été condamné à mort. Gerald Bowking, l'un de ses avocats, a déclaré que Sigmund avait choisi le peloton d'exécution après avoir été placé dans une position impossible, contraint de prendre une décision qualifiée d'abjectement cruelle sur la façon dont il mourrait. À moins qu'il ne choisisse l'injection létale ou le peloton d'exécution, il mourrait sur la vieille chaise électrique de Caroline du Sud, qui le brûlerait et le ferait cuire vif, a déclaré King dans un communiqué. Si l'exécution a lieu, Sigmund serait la première personne jamais exécutée par un peloton d'exécution en Caroline du Sud. La dernière exécution par ce billet aux États-Unis a eu lieu en Utah en 2010.
Le président américain Donald Trump a dit lundi qu'il voulait voir redémarrer maintenant les travaux de construction d'un oléoduc entre le Canada et les États-Unis, baptisé Keystone XL et abandonné en 2021 au début du mandat de son prédécesseur Joe Biden. Le gouvernement Trump est très différent. Autorisation facilitée, démarrage presque immédiat, a vanté le chef de l'État, ajoutant que si TC Energy n'était pas partant, une autre entreprise pourrait s'emparer du projet, annulé une première fois sous la présidence de Barack Obama, car jugé trop polluant, le projet avait été remis sur les rails par Donald Trump. Voilà pour le journal. Vous suivez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Nani Talani.
Le Niger veut produire 2700 tonnes de cuivre par an sur 10 ans, générant 300 emplois directs. La redevance minière doit rapporter 4 milliards de francs CFA à l'État. Avec le début de l'exploitation du cuivre, le Niger poursuit son programme de diversification de la production minière et marque son entrée dans le cercle restreint des pays producteurs de ce minerai stratégique, a commenté le gouvernement. Selon lui, des recherches ont permis la découverte d'un gisement important de cuivre. Le gouvernement gabonais a signé un protocole avec la société turque Carpo Worship pour la fourniture de 70 MW d'électricité pour 1,8 milliard de francs CFA par mois grâce à deux centrales électriques flottantes pour approvisionner le Grand Libreville. La fourniture en électricité subit d'importantes perturbations depuis plusieurs mois au Gabon. Conséquence, selon les autorités, des infrastructures des sociétés nationales d'eau et d'électricité qualifiées de vétustes. Pour terminer, la contestation post-électorale au Mozambique a provoqué une baisse d'environ 5% du PIB au dernier trimestre 2024 par rapport à 2023. La grève organisée par l'opposition et les blocages de routes, de mines et de centrales ont freiné la croissance annuelle qui n'a atteint que 1,85% contre 5% en 2023. C'est ce qu'indiquent les données de l'Institut national de statistique.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonjour Yacouba.
Bonjour Rosine, bonjour à tous.
Suite aujourd'hui des matchs retour du premier tour des éliminatoires de la CAN féminine.
Oui, trois matchs au programme, Égypte, Rwanda, Algérie, Soudan du Sud et Mali-Gabon. Pour notre consultant Jules Valentin Ngoué, les Maliennes partent favorites face aux Gabonaises.
C'est un match qui va sûrement surprendre certains parce que à l'heure actuelle, le championnat n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière et les féminines, telles que on a pu le voir à travers certains scores astronomiques qu'elles ont eu à accumuler, ne sont pas encore très compétitives. Donc face aux Maliennes qui sont en courbe ascendante, qui ont changé de catégorie, et les Gabonaises auront fort à faire.
Jules Valentin Ngoué, consultant sportif.
La Gambie et le Bénin ont passé ce premier tour.
La Gambie, qui avait battu le Niger 2-0 à l'aller, a remis ça, cette fois-ci 2-1, face aux Nigériennes. Pour notre consultant Amdinsi, les Scorpions montent en puissance.
C'est une qualification logique des Gambiennes qui sont en train de faire du bon travail quand même au niveau de cette compétition féminine. Mais le plus dur reste à faire puisque ce n'est qu'un premier tour maintenant. Il va falloir sortir le grand jeu lors de ce second tour qui sera très très relevé.
Amdinsi, consultant sportif. Le Bénin a lui aussi fait mieux que sauvegarder son avance de 2-1 du match aller face à la Sierra Leone, encore battu 3-1. Pour Élisée Mpatin, le plus dur reste à venir pour les Béninoises.
Au prochain tour, ce sera très très difficile, plus difficile même que la Sierra Leone, puisque c'est l'équipe la plus titrée dans cette compétition. Eh bien.
De nouveau avec vous, Rosine Moulin-Zero. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Les paramilitaires des forces de soutien rapide et leurs alliés au Soudan ont signé à Nairobi une charte fondatrice d'un gouvernement parallèle. La charte a été signée lors d'une réunion à huis clos dans la nuit de samedi à dimanche à Nairobi sur fond de tensions diplomatiques avec le Kenya. Les signataires du document s'engagent à construire un État laïque, démocratique, décentralisé, basé sur la liberté, l'égalité et la justice, sans parti pris culturel, ethnique, religieux ou régional. Pour une analyse, Alexandrine Holognon a joint Roland Marshall, chercheur sciences politiques à Paris, spécialiste de la Corne de l'Afrique et de l'Afrique centrale. Il nous dit d'abord pourquoi le Kenya a été choisi comme lieu pour la signature de cette charte.
Le Kenya, depuis le début, a des relations, disons, relativement amicales avec le général Emiti. De plus, les deux présidents se connaissent et s'apprécient. De plus, si vous voulez, le Kenya joue un rôle crucial dans l'IGAD, l'organisation régionale de la Corne de l'Afrique, et il y a très clairement une compétition entre l'Union africaine qui a dans le passé marqué très souvent sa tendance à soutenir les militaires soudanais et l'IGAD qui s'empresse d'être différente et donc s'est retrouvée un peu de l'autre côté avec le président Ruto, mais aussi le président ougandais.
Plusieurs pays ont mis en garde contre un risque de fragmentation du Soudan avec la signature de cette charte. En quoi l'initiative risque-t-elle de fragmenter encore plus le Soudan pour un pays déjà en guerre?
La fragmentation du pays, elle est là. Ça fait presque 2 ans maintenant que ce pays est à feu et à sang. On attend toujours la grande initiative diplomatique par des pays arabes ou par les États-Unis. On ne l'a pas eu. Là, on est dans un moment plutôt tactique que stratégique, c'est-à-dire que les forces de soutien rapide se sont rendues compte assez tôt dans le conflit qu'il leur manquait une aide civile. Ils ont essayé de la créer avec beaucoup de difficultés. Aujourd'hui, ils essayent de passer à une étape supplémentaire qui est une alliance politique qui permet de créer un gouvernement, pas simplement avec les soutiens du général Emiti. C'est vrai que pas indépendamment de toutes ces démarches politiques, on a une situation militaire qui nous permet d'assister de facto à une division du pays.
Pour revenir un peu sur le contenu de cette charte, les signataires du document veulent créer un gouvernement de paix et d'unité. Ma question est-ce que les FSR aujourd'hui ont les moyens de se structurer et de fonctionner durablement?
Si vous voulez, je crois que vous lisez une partie du texte. La question, c'est ils veulent une république laïque, démocratique. Je crois que les termes sont importants. Le mot laïque, par contre, est extrêmement important. Pourquoi? Parce que les reculs militaires qu'on a vus depuis, en gros, la fin de la saison des pluies en 2024 n'a été possible que par l'implication extrêmement grande de différentes milices qui ont été le plus souvent organisées par les islamistes qui étaient au pouvoir jusqu'en 2019 et qui servent, en fait, de troupes de choc et notamment d'infanterie à l'armée soudanaise. Donc il y a en fait un débat, alors c'est quelque chose qu'il faudrait évidemment nuancer, mais il y a un débat sur le fait que la victoire de Burhan, même si Burhan lui-même n'est pas un islamiste, à terme signifie le retour des islamistes au pouvoir.
Roland Marshall, chercheur sciences politiques à Paris, spécialiste de la Corne de l'Afrique et de l'Afrique centrale. Au Tchad, les travaux du Forum international du développement des infrastructures du Tchad, défis et perspectives, ont pris fin ce week-end à N'Djamena. Une occasion pour les participants de jeter les bases d'une politique publique volontariste et intégrée afin d'accélérer l'intégration régionale et stimuler la transformation économique et sociale du Tchad. André Konmandigar fait le point de N'Djamena.
Plusieurs études indiquent que l'Afrique doit investir chaque année entre 130 et 170 milliards de dollars dans les infrastructures pour répondre aux besoins de sa population et soutenir une croissance économique durable. Et le Tchad, à l'image d'autres pays du continent, est confronté à cet impératif. Pourtant, sa position géographique devrait être en potentiel pour le Sahel et pour le continent, estime la secrétaire exécutive du NEPAD, Nardos Bekele-Thomas.
De nombreux corridors stratégiques du programme de développement des infrastructures en Afrique traverse ou intègre les pays tels que Dakar, N'Djamena, Djibouti, Cape Town, N'Djamena, Tripoli, N'Djamena, Zinder, Alger, route transsaharienne, Douala, N'Djamena, N'Djamena, Bangui, Brazzaville, Point Noir, et plus récemment, le corridor intégré Tchad, Libye, Égypte. Ce sont vraiment les routières qui font que le Tchad n'est pas vraiment un pays enclavé. Investir dans les infrastructures de transport et de connectivité fait du Tchad un passage incontournable pour relier l'Afrique de l'Est, du Nord et de l'Est. Désenclaver le Tchad, c'est désenclaver l'Afrique.
Ce plaidoyer semble avoir un écho favorable des partenaires financiers qui ont signé des mémorandums d'entente renforçant les partenariats stratégiques avec le Tchad, à l'exemple de la Banque africaine de développement, a déclaré à VOA Afrique le ministre tchadien en charge des infrastructures, du désenclavement et de l'entretien routier, Amir Idriss Kourda.
La signature d'un accord de financement entre le gouvernement du Tchad et la Banque africaine de développement pour le financement du bitumen de la route qui a Singapour, section Kiabé-Mayo. Grâce à ces dons, les 27,7 milliards de francs CFA, 49,5 km de route seront modernisés et un pont de 55 mètres sera construit. C'est une avancée majeure qui illustre notre engagement à améliorer la connectivité nationale.
Le président de l'Association des écrivains et auteurs du Tchad, Sosten Bernoudi, estime pour sa part que ce projet de désenclaver l'Afrique à travers le Tchad sera un vœu pieux.
Je connais quelqu'un qui a travaillé à la BAD qui m'a dit qu'il y a eu plus de 30 missions au Tchad pour le problème d'électricité. Aujourd'hui, dans la capitale, il n'y a pas d'électricité. Donc, il est temps d'arrêter avec des discours. Tout ce que ces participants racontent là, ça sonne faux. Il va falloir qu'ils remettent les pieds sur terre en désenclavant déjà les rues des différents quartiers, les différentes communes d'arrondissement. Pour moi, l'heure n'est plus au discours. Il faut passer aux actes. Moi, je ne suis pas d'accord le fait qu'on tende toujours la main à la Banque mondiale, au FMI, qui sont ces institutions de domination.
Les participants à ce forum s'engagent à transformer le Tchad en hub logistique et de transit continental suffisamment interconnecté aux principaux corridors régionaux et continentaux. André Koduma Djingar, N'Djamena, pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
L'apparition récente du virus H5N1 de la grippe aviaire et son potentiel de mutation suscitent des inquiétudes au sein de la communauté scientifique qui craint une transmission interhumaine et une nouvelle pandémie. Les agriculteurs s'inquiètent également des conséquences potentielles sur leurs moyens de subsistance. C'est un reportage de Véronica Balderas Iglesias de la VOA, relaté par Thierry Kaoré.
George Terwillinger dirige la ferme Pleasantville à De La Plaine, en Virginie, à l'ouest de Washington. Il a modifié sa petite exploitation en raison du virus H5N1 de la grippe aviaire. Ce qu'on appelle la grippe aviaire a entraîné non seulement une augmentation de la mortalité des oiseaux aux États-Unis depuis 2022 et une forte augmentation du prix des œufs dans tout le pays.
Nous n'avons pas agrandi notre élevage de poulets au cours des deux dernières années par crainte d'introduire par inadvertance des oiseaux infectés.
Terry Wilger, membre du bureau des ressources du département de la faune et de la flore de Virginie, est également préoccupé par le risque que la grippe aviaire pourrait représenter pour ses porcs et pour la centaine de vaches et de veaux qu'il possède.
Si la maladie venait à infecter le bétail et à le rendre malade ou à rendre sa viande, il s'agit du bétail de boucherie, inacceptable, cela nous mettrait sur la paille.
La grippe aviaire chez les vaches laitières a été signalée pour la première fois à la fin du mois de mars. Les centres de contrôle et de prévention des maladies affirment que le risque pour la santé publique reste faible, mais des changements constants dans l'ADN du virus inquiètent certains scientifiques. Megan Davis est de l'université Johns Hopkins.
S'il y a des changements qui rendent plus facile la transmission du virus d'une personne à une autre, ce que nous n'avons pas vu jusqu'à présent, cela pourrait être un véritable défi en termes de réponse de santé publique. Et c'est la raison pour laquelle nous pensons que ce virus a un potentiel pandémique. La chose la plus importante à faire, nous savons que la pasteurisation du lait, la cuisson de la viande aux températures recommandées et la cuisson des œufs sont efficaces pour inactiver ces virus particuliers.
Il est conseillé aux propriétaires d'animaux de surveiller les rappels d'aliments pour animaux contaminés et de lait cru et de ne pas laisser leurs animaux entrer en contact avec des oiseaux sauvages tout en gardant un œil attentif sur les derniers développements. George Terwilliger, propriétaire de la ferme Pleasant Valley.
Normalement, d'ici un mois environ, nous achèterions des dindonneaux pour élever des dindes qui seront vendues dans le commerce à l'occasion de Thanksgiving. Je ne suis pas sûr que nous le ferons cette année, car je m'inquiéterais de la provenance des oiseaux. Seraient-ils porteurs de la grippe aviaire?
En attendant, l'éleveur dit qu'il suivra les recherches scientifiques et espère que la maladie suivra son cours, tout en gardant un œil très attentif sur ces animaux.
Kiev, une ville de l'ouest de l'Ukraine, est confrontée à l'absence d'hommes. Beaucoup ont fui, se battent ou sont morts en combattant l'invasion russe. C'est un problème commun à de nombreuses villes et villages d'Ukraine. La guerre a aggravé le déclin démographique du pays. Les personnes restées sur place craignent pour l'avenir de l'Ukraine alors qu'elles s'efforcent de reconstruire leur vie. Reportage de Yann Bochat. Récit Eric Manilakiza.
Des mémoriaux des soldats tombés au combat bordent la place principale de Makiv. Les photos montrent leurs visages dans des moments plus heureux. Au-dessus d'eux, un slogan qui est devenu l'un des mantras de cette guerre, « Gloire aux héros ». Makiv se trouve à plus de 600 km des lignes de front. Pourtant, peu d'endroits illustrent aussi clairement l'impact profond de cette guerre. Ici, les hommes en âge de servir dans l'armée n'existaient que sur des photographies ou dans les tombes solitaires du cimetière de la ville. Tous les autres ont disparu.
Regardez. Où sont les gens? Les gens se cachent. Ils ont été intimidés.
Le chauffeur Alex Kamasovski vit en Allemagne depuis plus de 30 ans. Il est retourné dans sa ville natale pour la première fois depuis le début de la guerre afin de renouveler ses papiers. Mais il a découvert que tous ses amis et sa famille avaient disparu.
C'est une tragédie.
Kamavuski dit que beaucoup d'hommes de la ville en âge de se battre se cachent à la campagne pour éviter d'être envoyés au front. Dans les rues de Makiv, début février, la plupart des personnes rencontrées par VOA étaient des femmes. Nombre d'entre elles ont déclaré que la vie était devenue beaucoup plus difficile depuis le départ des hommes.
Je suis une femme âgée, j'ai plus de 70 ans. Bien sûr, c'est un problème plus important pour les jeunes femmes, celles qui restent avec des enfants. Si un homme est à la maison, il n'est pas seulement un protecteur, mais aussi un pourvoyeur. Il apporte son aide dans tous les domaines, en particulier sur le plan financier.
De nombreux villages et villes de l'ouest de l'Ukraine sont confrontés à l'absence d'hommes. Mais Makiv est aussi le reflet d'une crise démographique plus large qui remodelait déjà l'Ukraine avant la guerre. Le gouvernement a affirmé que la population du pays est passée de 52 millions d'habitants en 1991 à 32 millions en 2024.
Ce fait m'a fait très peur. Tant de gens sont partis avec leurs familles et cela a tout changé dans le pays. Le pays lui-même a beaucoup changé. C'est triste parce que tant de gens sont partis, je n'ai pas de copines, pas d'amis, presque toute ma famille est partie. Et c'est juste triste.
Angelina Bondar n'a que 15 ans. Un de ses voisins est mort à la guerre. Certains se battent encore. Nombreux de ses amis sont partis avant même d'avoir atteint l'âge adulte. Elle sait qu'un jour, ce sera à sa génération de reconstruire l'Ukraine. Mais elle n'est pas sûre d'être prête à relever ce défi.
Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique.
Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme, déplacement de populations, influence étrangère. VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays.
Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews.
Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h temps universel sur VOA Afrique, voafrique.com et toutes nos plateformes digitales.
Voilà, c'est tout pour cette édition du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci également à toute l'équipe de la rédaction et la production. Au micro, vous étiez avec Rosine Monezero, à la mise en onde, Michel Joseph. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Passez une excellente journée à l'écoute de VOA Afrique. Au revoir.